Allô Jérémy Ferrari, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur CFM Radio pour parler de votre spectacle Alléluia Bordel. Alors, déjà, avant de parler de ce spectacle, on va recadrer pour ceux qui arriveraient de mars. Vous êtes connu du grand public pour avoir participé à de nombreuses reprises à l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Vous continuez d'ailleurs de participer, je crois, à son émission chez la grande sœur.
Tout à fait, oui. Je continue à être chroniqueur avec lui sur Europe 1 également. Oui.
Voilà. Et donc c'est là qu'on vous a découvert. Mais en même temps, vous n'êtes pas né là. Vous avez commencé à faire l'acteur et le comédien et le comique déjà par le cours Florent au tout début. Hein, c'est ça.
Ah ouais, non. En fait, au tout début, c'était à Charleville-Mézières dans les Ardennes où j'ai commencé à faire des cours de théâtre effectivement avec un grand monsieur du théâtre qui s'appelait Bruno Nion, qui m'avait repéré, qui m'avait donné des cours particuliers pendant plusieurs années pendant mon adolescence. Ensuite, je suis allé au cours Florent, mais je ne suis pas resté longtemps parce que c'était vraiment pas terrible. C'était très cher pour avoir des professeurs qui préféraient s'entendre parler que de laisser parler les élèves. Donc, ça n'avait pas grand intérêt. Donc, je me suis vite sauvé des cours Florent.
C'est bien ça,
c'est
rare qu'on entende ça du cours Florent. Hein. D'habitude, c'est quand même un truc, c'est l'étiquette qu'on essaye de coller et de mettre en avant sur son curriculum vitae quand on a fait artiste.
Je vais vous dire quelque chose. S'il y a bien quelque chose dont tout le monde se fout quand vous arrivez dans le métier, c'est de quelle école de théâtre vous sortez. On ne m'a jamais demandé de quelle école de théâtre je sortais. Et puis, vous savez, les cours Florent, ils ont 3000 élèves par an. Donc évidemment, dans le lot, ils en ont quelques-uns qui deviennent connus et après, ils s'en servent comme publicité. En même temps, avec 3000 élèves par an, heureusement, je serais quand même un ou deux qui réussissent.
Vous, dès le départ, vous avez voulu faire le comique, vous avez voulu monter des sketchs, c'est ça? Dès le début?
Oui, dès le départ, j'ai fait du one-man. Moi, j'ai commencé le one-man sur scène seul, j'avais 16 ans environ. Donc j'ai vraiment commencé très très jeune.
Ah ouais, évidemment. Et dans la provocation, déjà?
Oui, j'ai toujours fait de l'humour noir, j'ai toujours aimé l'humour provoque, j'ai toujours aimé bouger un petit peu les manières de penser, voilà, j'ai toujours voulu faire rire les gens et emmerder les cons, comme j'ai coutume de dire.
Alors, le spectacle que vous allez jouer à Eurythmie, samedi soir à 20h30, il s'appelle Alléluia Bordel, mais avant ça, il s'appelait autrement, il s'appelait Mes 7 péchés capitaux.
Vous pouvez nous raconter? En fait, c'est pas de votre faute, c'est quelque chose qui est souvent dit, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, bon, j'ai eu plusieurs spectacles, dont un qui s'appelait Mes 7 péchés capitaux. Mes 7 péchés capitaux, je jouais à Paris, et à un moment donné, j'ai changé de salle. Il y a eu un battement de 2 mois entre la salle où je jouais et la nouvelle salle où je vais jouer quelques mois plus tard. 2 mois plus tard. Et j'avais décidé de refaire une réécriture totale une réécriture sur ce spectacle. Et il se trouve qu'en fait, je me suis fait voler mon ordinateur, 2 semaines avant la première. Et j'ai donc dû de tête réécrire quelque chose pour jouer 2 semaines plus tard. Et finalement, de cette réécriture, j'ai eu cette idée du spectacle Alléluia Bordel. Et en fait, ça a été une réécriture totale de Mes 7 péchés capitaux. Donc c'est ça la vraie histoire. C'est qu'en fait, en voulant reformuler Mes 7 péchés capitaux, j'ai finalement écrit un spectacle pratiquement neuf. Parce que j'ai dû garder 10 minutes de Mes 7 péchés capitaux. Donc c'est pas seulement le titre qui a changé. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ouais, mais alors le travail de fond avait déjà été fait pour ce spectacle-là quand même, parce que pour en arriver à ce spectacle sur les religions, vous êtes beaucoup beaucoup documenté d'après ce que j'ai vu.
Ah oui, par contre effectivement, j'étais déjà en train de me pencher sur la religion. Mes 7 péchés capitaux commençait déjà à parler un peu de religion, je commençais à attaquer un peu la religion, et puis mon travail s'est approfondi, et puis c'est devenu un spectacle entier sur la religion. Alors après c'est pareil, parce que c'est un terme qui peut faire un peu peur, c'est un texte sur la religion, mais qui concerne pas forcément les gens qui s'intéressent à la religion. C'est ça qui est important. Vous savez, c'est un peu comme l'humour noir. L'humour noir, on a toujours entendu que l'humour noir, c'était pas grand public, et puis finalement, on s'aperçoit que je suis passé de salles de 40 places à des salles de 2000, donc si, c'était grand public, finalement, l'humour noir. Et ben, la religion, c'est pareil. C'est pas forcément que chiant. Ça peut aussi être très drôle. Et même ne pas être croyant, c'est déjà être concerné par la religion. Et en fait, la religion, dans ce spectacle, c'est plutôt un prétexte pour moi, parce que ça me permet de parler de plein de choses différentes. Ça me permet de parler de l'homophobie, de la misogynie, du racisme, des femmes battues, du couple, de l'éducation, de plein de choses. La religion est présente dans tout, qu'on le veuille ou non, elle est là, elle est présente. Il n'y a pas besoin ni de s'y connaître en religion, ni de s'y intéresser pour se marier à ce spectacle. Et il n'y a pas non plus besoin d'être, c'est un spectacle très grand public, il n'y a pas besoin d'être théologien, je fais référence à rien qui n'est pas connu des gens. Et plus le gros avantage, c'est que j'ai les textes sur scène. Et c'est surtout ça qui est intéressant dans le spectacle, c'est que j'arrive, c'est le seul humoriste qui est arrivé avec les textes en main, et je fais carrément des fois lire des extraits carrément dans le public, parce que les gens n'arrivent pas à croire que je suis en train de leur lire. Et ça arrive à plusieurs reprises dans le spectacle, que carrément je descends dans le public, en donnant la Bible, le Coran, la Torah aux gens, à l'Église. Parce que là, il y a plein de moments où les gens disent c'est pas possible que ce soit écrit.
C'est presque un travail de journaliste que vous faites là.
J'aime bien le. Tu sais, il y a quelqu'un que je prends souvent en exemple, c'est un peu Michael Moore qui me fait beaucoup rire avec ses films, et j'aime bien allier le fond et la forme. Et je trouve que pour que l'humour noir justement soit populaire, grand public, et soit intéressant, et ne soit surtout pas gratuit, faut toujours qu'il y ait un fond qui soit au moins à la hauteur de l'efficacité. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on se marre toujours plus qu'on ne réfléchisse, parce qu'il faut toujours se marrer plus, parce que je reste un humoriste et pas un philosophe. Donc moi, le premier truc, c'est d'abord que les gens se marrent, c'est la première chose, mais toujours qu'ils réfléchissent. Mais pour être méchant, pour être provoque, il faut quand même avoir un fond derrière. Ouais, il faut pas le faire gratuitement, sinon ça s'appelle de la méchanceté, et c'est plus de l'humour. Donc il faut toujours qu'il y ait un fond et une dénonciation derrière. Donc le travail journalistique est nécessaire quand on va travailler sur la religion ou sur d'autres thèmes un peu pointus. Il faut se renseigner, on est obligé.
Jérémy Ferrari, je vous propose qu'on fasse une petite pause dans notre conversation, juste le temps d'écouter un de vos sketchs qui illustre bien tout ce que l'on vient de dire. Ce sketch met en scène un certain Mohamed que ses employeurs voudraient bien voir renommé Alexandre.
Entrez Mohamed, entrez. Bien, bonsoir, bonjour. Alors, bon, déjà, on voulait vous dire avec Francis, on vous aime beaucoup, Mohamed, hein? Non, hein, on aime bien, on vous aime bien. Vous êtes travailleur, vous êtes souriant, vous êtes toujours à l'heure, hein? Et alors, on se posait une question avec Francis, comme ça, mais alors, finalement, vous êtes de quel pays, vous? La France, d'accord, mais je veux dire en vrai. Là, j'ai les origines. Ah, vous êtes libanais, hein? Tu vois, je te disais, Francis, libanais, d'accord. Il paraît que c'est beau, la Libanie, en plus, hein? Si, c'est vrai que tous ces déserts, hein, toutes ces guerres. Et alors, on avait un petit souci avec Francis, c'est au niveau de votre prénom. Hein. Alors, on n'a rien contre les prénoms libaniens, mais Mohamed, hein. Ah, quand je le dis, regardez, ça m'érisse. Ah, j'aime pas. Ça râpe un peu en bouche, ça nous pique la gorge avec Francis quand on dit Mohamed. Ah non, on n'aime pas. On trouve que ça va pas avec le reste des phrases. Ben, c'est vrai, je donne quelques exemples. Regardez. Une colline? Ah, bon, ah, une colline, hein, ouais. Une rivière? Le rire d'un enfant? Mohamed! Vous voyez? Oh, ça gâche! Hein, alors, on s'est dit, peut-être, vous avez peut-être un deuxième prénom, hein? Oussama? C'est pas beaucoup plus vendeur, ça, hein? Ben, je sais pas. Alors, nous, on avait pensé avec Alexandre. On trouve que ça vous va très très bien avec Francis, hein? Ah, si, on a trouvé que ça vous allait extrêmement. Mais pourquoi vos parents seraient déçus, je comprends pas. Parce que eux aussi, ils sont arabes. Mais vous êtes combien comme ça, là? Ah oui, mais là, je crois qu'il faut demander une dérogation à la mairie. Je suis pas sûr que ce soit légal, hein. Raciste, moi? Oh, alors là, vous me vexez, hein, Alexandre, hein. Alors là, vous me vexez, hein. Et pourtant, je suis pas facile à vexer, hein, Francis, hein, je suis pas. Mais alors là, moi, raciste, qui achète tous les matins au marché de la papaye, de la goyave, même mon gel douche est à l'eau de coco. Ah non, alors là, non, vous allez trop loin, là. Eh bien, ouais, mais je vais lui parler de la pétition. Tu vois, je voulais pas. Ah ben, voilà. Eh bien, oui, il y a une pétition qui tourne, Alexandre, oui. À propos de votre circoncision. Oui, ah ben j'étais le premier étonné, je suis d'accord avec vous. Ça ne se voit pas au premier abord, mais il y a des gens qui ont dit, eh ben moi rien que de le savoir, ça me gêne. Voilà. Alors bon, on vous a fait gagner un petit peu de temps avec Francis, on est parti chercher sur Google. Figurez-vous qu'en Géorgie, ils proposent de reconstituer un prépuce. Ah, ils font ça avec de l'épaule de cochon, ils nous ont dit. Ah, vous êtes musulman, ah, tu vois, je te l'avais dit. Mais enfin, on vous demande pas de le manger là, hein. Ah non, non, là, c'est juste pour le... Hein, alors, hein, oui, voilà, comme dit Francis, il faut peut-être éviter de le dire à votre femme.
Voilà, petit exemple de l'humour noir et caustique et provocateur de Jérémy Ferrari. Alors, samedi soir à 20h30 à Eurythmie, à Montauban, vous allez jouer Alléluia Bordel. C'est un autre rythme, c'est une autre façon de travailler que quand on fait de la télévision. La télévision, on va être sur un sketch très court où il va falloir tout donner en très peu de temps. Est-ce que vous préférez être le travail de comédien de one-man show sur scène ou celui de comédien one-man show à la télévision?
Je préfère sur scène, très sincèrement, parce qu'on a plus le temps d'installer des choses, parce que je vais carrément plus loin sur scène que à la télévision. Je crois que si j'avais déçu les gens, encore une fois, ça fait 2 ans que je joue ce spectacle, ça a commencé à fonctionner un peu près en même temps que la télévision, donc les gens attendaient vraiment de l'humour noir, de la provoque, etc., etc., et du fond, comme je fais le fond en télévision, et le pari, c'était de pas les décevoir. Et je crois que le pari a été réussi parce que justement je m'amuse encore plus sur scène. Je m'amuse plus parce qu'il y a une vraie véritable interaction avec le public, surtout que moi je fais beaucoup d'improvisation, donc je descends beaucoup dans le public, je taquine beaucoup les gens, donc je suis beaucoup dans la salle, je descends régulièrement dans le public, et puis j'ai possibilité d'aller bien plus loin, parce que quand vous avez 1h30 pour installer les choses, vous pouvez aller de plus en plus loin dans vos propos parce que vous avez mis les gens dans votre poche. Donc au fur et à mesure, vous pouvez aller de plus en plus loin et vous avez réussi à installer aussi le propos du spectacle. Et quand vous avez installé le propos du spectacle, vous pouvez tout vous permettre. Et moi, je peux me permettre des choses que je ne peux pas me permettre en télévision, non pas parce qu'on me l'interdirait, mais parce que ça serait trop brut en télé, en 3 minutes à installer. C'est impossible. Les propos que je tiens dans le spectacle, il faut au moins avoir eu 1 heure de spectacle, on s'est bien marié avant. D'ailleurs, le spectacle se durcit au fur et à mesure de... pour ceux qui viendront voir, vous verrez que je commence très gentiment et qu'au fur et à mesure, c'est de plus en plus dur pour arriver à des choses où il y a vraiment des ascenseurs émotionnels et des propos qui sont bien, bien, bien acides.
Alors, samedi 13 octobre à 20h30, vous jouerez à Montauban, salle Eurythmie. Et dans cette salle, ce soir même, là, tiens, il y a un de vos pères qui joue. Il y a Patrick Sébastien qui se produit ce soir dans cette même salle.
Ah oui, c'est pas le même humour. C'est pas le même humour. Mais c'est quelqu'un de très sympathique que j'ai eu l'occasion de croiser très récemment. Et voilà. mais je suis pas sûr.
Vous êtes né en 85, époque à laquelle lui, il était justement à la télévision quasi tous les jours, quoi.
En 85, je sais pas, moi je venais de naître, je peux pas vous dire, mais oui, certainement. Oui, c'est quelqu'un qui était là depuis longtemps, oui.
À part l'humour qui est pas le même, vous aimeriez avoir une carrière pareille à celle d'un mec comme ça, comme Patrick Sébastien?
Moi, je suis pas animateur télé, donc je veux pas le devenir. Donc, alors si on durée de carrière, oui. Si on parle de carrière en elle-même, non, parce que moi, je suis pas animateur télé, je veux pas le devenir. Mais la carrière de Patrick Sébastien en tant qu'animateur télé, plus d'autres choses, une caméra cachée, plein de choses, est exceptionnelle. A énormément fonctionné et surtout a duré sur le long terme, c'est pour ça que je le respecte. Et puis en restant quelqu'un quand même qui a vachement les pieds sur terre et la simplicité avec laquelle on l'a connu, parce que moi je l'ai croisé encore une fois il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un d'hyper simple, hyper sympa et voilà. Maintenant, moi je pense que chacun son parcours, je suis dans des univers très très différents, mais en tout cas si j'avais la possibilité d'avoir la longévité qu'il a eu et de garder sa sympathie et sa simplicité, ben oui, ça serait formidable.
Jérémy, on refait une pause dans notre conversation, le temps d'un petit peu de musique, et puis on revient dans un instant. Je rappelle que votre spectacle Alléluia Bordel, vous le jouerez samedi 13 octobre à 20h30 à Eurythmie. On va d'ailleurs faire gagner des places. Attention, de l'autre côté du poste, tapotez déjà dans vos téléphones le 05 63 930 020. I am in front of you, you look me in the eye, you never speak the truth, your words they smell like wine, better lie, you're gonna have to find a better one for a better life. Give me your best excuse, this is the life you choose. Dancing in noisy bars, looking for fancy cars. A better life, you're gonna have to find a better one for a better life. You are mine,
before you spend so many nights with those guys. There are so many I could die, but it's fine. And I will take a chance to hear you say that I'm your favorite one. We had some good parties. What about good memories? Questions in one good eye, answers in the other one. A better life you're gonna have to find, a better one for a better life. You're mine before you spend so many nights with those guys. There are so many I could die, but it's fine. And I will take a chance to hear you say that I'm your favorite one. In front of you, you look me in the eye. You never speak the truth. You're what they smell like wine. Better lie, you're gonna have to find a better one for a better life. You are mine before you spend so many nights with those guys. There are so many I could die, but it's fine. And I will take a chance to hear you say that I'm your favorite. Hear you say that I'm your favorite one. Your favorite one. But it's fine. And I will take a chance to hear you say that I'm your favorite one. A better life you're gonna have to find, a better one for a better life. I'm sure you'll try to find a better one for a better life.
Et on reprend notre conversation avec Jérémy Ferrari à l'occasion de sa venue samedi 13 octobre à Eurythmie. Vous avez un plan de carrière, Jérémy Ferrari, ou pas?
Non, j'essaie de faire... On me reproche parfois de... Ça arrive qu'on me reproche de faire trop de choses, mais c'est souvent... disons que je suis quelqu'un vraiment à bout de nuit du boulot, donc je fais toujours plein de choses en même temps. Donc là j'ai la télé, j'ai la tournée, je prépare un film qu'on tournera au printemps, et puis il y a le spectacle de Guillaume Bass qui démarre bientôt. Donc il y a parfois des gens qui prennent mal, les gens du métier parfois qui disent il veut tout faire machin. Bon, après voilà, chacun sa manière de voir les choses. Moi j'estime que j'ai la chance que ça fonctionne, ça n'a pas marché pendant 10 ans. Maintenant que ça fonctionne, j'en profite et je profite de travailler. Je suis quelqu'un qui me détend en travaillant. C'est-à-dire que ma passion, c'est de travailler. Donc, je vois pas pourquoi je m'empêcherais de travailler. Et on s'aperçoit que quand on se lève à 7 heures du matin et qu'on se couche à 2 heures, on a le temps de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Donc, j'ai pas de plan de carrière. En revanche, je vais essayer de taper de plus en plus fort et de faire des choses de plus en plus surprenantes et de faire plaisir au public. C'est surtout ça, en fait, moi qui m'importe. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir une salle se lever à la fin d'un spectacle, c'est de recevoir des mails qui disent super contrées chez la télé, c'est surtout ça. Moi, les risques que je prends dans mes propos avec de l'humour noir, je ne le fais pas évidemment pour moi. C'est ça aussi qui est joli dans l'humour noir, c'est que c'est évidemment aussi pour les autres. Si j'avais voulu uniquement devenir connu très vite et puis gagner beaucoup, beaucoup d'argent, il y avait des moyens plus que d'aller me moquer des handicapés à la télé. Donc voilà.
Vous avez parlé de cette période de 10 ans où ça a pas marché. Vous avez été obligé de faire autre chose, hein, à des moments. J'ai une liste devant moi. Là, vous avez été agent de sécurité, coursier, conseiller clientèle chez Orange. Tiens, vous pourriez me vendre un téléphone, là? Est-ce que ça vous a inspiré d'être, voilà, je sais pas, conseiller clientèle en téléphonie, vendeur de chemises, manutentionnaire ou encore agent de sécurité? Est-ce qu'on retrouve un peu tous ces personnages-là dans les sketchs de Jérémy Ferrari aujourd'hui?
On retrouve pas les personnes. Enfin, je sais pas, oui, on peut les retrouver à certains moments dans des sketchs que j'ai pu faire en télévision, mais c'est surtout c'est l'ensemble de ma vie, je crois, qui m'a amené vers l'humour noir. C'est là où j'ai grandi, c'est comment j'ai été élevé, c'est ce que j'ai pu voir, vivre, entendre, en bien et en moins bien d'ailleurs. Hein. Il y a pas ni du négatif ni du positif dans tout ça. C'est assez équilibré. Et après, c'est les travaux que j'ai faits qui étaient difficiles, parfois physiquement, parfois psychologiquement, parfois les deux, m'ont aidé à avoir cette niaque surtout. C'est avoir cette boulimie de travail et cette énergie que j'ai au quotidien qui fait que effectivement j'arrive à travailler pratiquement H24, 7 jours sur 7. C'est surtout ça que ça m'a donné. C'est quand on a goûté. Au fait que les gens soient présents dans des salles, que d'être suivis par des gens, etc. On n'a pas envie de redescendre. Donc ça m'a appris aussi l'humilité, ça m'a appris la valeur de l'argent, notamment parce que j'en ai pas gagné pendant 10 ans. Maintenant que j'en gagne, j'ai valeur de chaque euro que je gagne. Je sais ce que ça vaut parce que je suis dans un milieu modeste et moi j'ai été ce qu'on appelle dans la merde quand même. Donc je sais ce que c'est que de gagner de l'argent et j'ai valeur. Donc je crois que ça m'a apporté la possibilité de garder les pieds sur terre. Je crois que ça m'a pas trop changé de que ma vie change à ce point-là. Je crois pas avoir changé beaucoup.
Alléluia.
Sébastien.
Alléluia bordel, c'est le titre du spectacle que vous donnez à la salle Eurythmie à Montauban. Merci d'avoir été avec nous, Jérémy Ferrari, pour en parler sur CFM Radio. À la prochaine.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est dans la boîte.
Bon, après, vous avez ce qu'il vous faut.